Quand on entend l'expression « maladie l'argent », qui bien sûr n'a rien à voir avec les indemnités journalières en cas de maladie, beaucoup de gens peuvent penser d'abord à des personnages tels que M. Arapagon chez Molière ou encore Ebenezer Scrooge chez Charles Dickens, ou aussi l'oncle Picsou chez Walt Disney, qui incarnent tous clairement des formes d'avarice qui paraissent pathologiques. Non, sous l'influence de Thomas d'Aquin, l'avarice, en latin avaritia, est associée depuis le Moyen-Âge par l'Église catholique à la superbia, c'est l'orgueil, la fierté, la vanité et l'arrogance, à la luxuria, la luxure, la débauche, comme on dise, la convoitise, et aussi l'impudicité, et l'ira, la colère qu'il s'agisse d'irascibilité, de rage ou d'un esprit de vengeance, à la goulia, la goutonnerie, l'invidia, l'envie, c'est-à-dire la jalousie, le ressentiment, et la cedia, la paresse et la lâcheté, également l'ignorance, la lassitude et la paresse intérieure, qui ont été regroupés dans le concept des sept péchés capitaux. Péchés capitaux s'opposent aux vertus qu'on appelle les vertus cardinales. Dans sa Divine Comédie, Dante Alighieri les réélit à jamais dans le quatrième cercle de l'enfer. Or, un examen théologique plus approfondi montre toutefois que c'est ce que populairement est appelé un péché mortel, ou peccatum mortiferum, peccatum mortal, et en fin de compte, rien d'autre qu'un vice, c'est-à-dire un mauvais trait de caractère. D'un point de vue médical également, on associe le plus souvent l'avarice à des troubles de la personnalité dépendante et un comportement addictif qui peuvent à leur tour prendre une valeur plus ou moins pathologique. De l'autre côté, le money sickness désigne des troubles psychiques d'un autre type. C'est Brad et Kate Klotz qui en ont donné une définition en 2011. Ils parlent d'un concept de money disorder, c'est-à-dire troubles liés à l'argent. Ils en disent « Les troubles de l'argent sont des schémas inadaptés de croyances et de comportements financiers qui entraînent un stress cliniquement significatif, une altération des fonctions sociales ou professionnelles en raison d'un stress financier ou d'une incapacité à utiliser ses ressources financières d'une manière appropriée. » Les problèmes qui sont liés à cette pathologie sont très répandus et bien connus. Mais le contexte psychologique et les besoins en matière de traitement ont été jusqu'à maintenant en grande partie négligés, ignorés au niveau de la psychothérapie. Il n'existe à ce jour aucune clé de diagnostic appropriée dans les répertoires officiels des troubles mentaux, que ce soit maintenant la 11e édition de la classification statistique internationale des maladies, la CIM-11, ou dans la 5e édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5. Il s'agit pourtant, tout comme pour la sexualité, d'une fonction de base incontournable pour vivre en société. Si à l'époque de Sigmund Freud, la sexualité humaine et ses effets étaient encore un tabou délicat qu'on ne pouvait pas aborder en société, la situation de ce côté-là a bien évolué depuis. Nous avons maintenant même des cours d'éducation sexuelle obligatoires dans les écoles. Mais il n'en va toutefois pas de même notre relation avec l'argent. Le tabou, on ne parle pas d'argent, persiste. Et les informations et les problèmes qui sont liées à l'argent sont encore aujourd'hui communiquées avec pudeur. Il y a des mots couverts. La capacité à gérer l'argent de manière appropriée et sensée est pourtant tout aussi importante que la capacité à développer judicieusement nos prédispositions et nos besoins sexuels. Mais contrairement à la sexualité, les préjugés et les tabous inexprimés continuent à exister dans ce domaine pour beaucoup et cela leur rend l'existence bien difficile. Ces concepts sont transmis aux enfants par les parents d'une manière trop discrète et sans qu'ils s'en rendent compte vraiment. Tout comme les parents eux-mêmes les ont reçus de leurs propres parents. L'argent, dans ce contexte, va souvent attribuer de nombreuses fonctions et qualités obscures qui ne relèvent pas de sa fonction rationnelle de moyen d'échange et de paiement matériel. Parmi ces idées figure celle selon laquelle l'argent serait quelque chose d'indécent, qu'il ne faut pas accumuler ou qui ne pourrait apporter que malheur et soucis, ou encore qui serait lié d'une manière ou d'une autre au mal. On trouve également des phrases comme celles qui suivent, qui affirme que l'argent ne fait pas le bonheur et il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Celle-ci crée une attitude négative vis-à-vis de l'argent et de sa possession qui marque souvent la suite de notre vie et qui marque notre attitude fondamentale vis-à-vis de la richesse d'une manière dévalorisante et appartenant au mal, sans que nous en ayons jamais vraiment conscience. Dans la mesure où cela fait partie de la doctrine de l'Église catholique qui nous a été transmise, une explication théologique critique plus approfondie serait aussi nécessaire. Tout comme auparavant pour la question des sept péchés capitaux, car il ne peut pas vraiment s'agir de la doctrine du salut de l'Église catholique, selon laquelle la richesse et la possession doivent être dédaignées, si de l'autre côté on considère que l'Église catholique elle-même a accumulé au cours des siècles plus de biens et de propriétés foncières toute autre institution dans notre monde chrétien. En revanche, la thèse du protestantisme-capitalisme, formulée par Max Weber, et son principe de liberté de jugement de valeur s'opposent à cela. En ce qui concerne notre attitude inaccessible à la conscience vis-à-vis de l'argent et des possessions, celle-ci stipule que la doctrine de foi des protestants est éloignée du dogme de l'Église catholique dans la mesure où ils n'ont plus considéré les possessions et les richesses comme un obstacle sur le chemin du salut de l'âme, mais comme un signe de Dieu pour un chemin de vie droit et salvateur. C'est ici qu'intervient le psaume 112:3 qui dit « Ils deviennent riches et prospères et on se souviendra toujours d'eux pour leur équité. » Et aussi la prière de Jabès « Ô Seigneur, que tu me bénisses, que tu étendes mon domaine, que ta main soit avec moi et que tu me préserves du mal. » Max Weber explique que l'éthique protestante postule la profession en tant qu'une tâche confiée par Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut remplir les obligations terrestres auxquelles il nous a appelés et accomplir le travail avec diligence. C'est le seul moyen d'atteindre le bien de l'âme et ne pas l'ascèse que pratiquent les moines. Ce protestantisme oblige donc l'individu, pour la gloire de Dieu, à conserver ses biens et à les accroître par un travail incessant. les deux étant les éléments essentiels de l'esprit moderne du capitalisme, tel que Max Weber le décrit. Voilà pour les facteurs confessionnels religieux qui ont une influence indéniable sur la psychologie de notre rapport à l'argent. Notre relation avec l'argent n'est pas sans lien avec l'image que nous avons de nous-mêmes, et d'autres aspects sont abordés dans les chapitres qui suivent.